Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM. Souvenir
FM. Bonjour à toutes et à tous. Merci David, hein, comme d'habitude, pour tout ton animation et tous les tips et toutes les anecdotes que tu nous fais parfois. C'est sympa. C'est le moment de votre émission préférée, l'invité du 12-13. Un moment privilégié d'échange et de découverte des acteurs locaux, ceux qui font vivre votre territoire au quotidien. Aujourd'hui, on va vous faire découvrir l'UNAFAM. Alors, je vais vous lire au moins une bonne fois pour toutes ce que c'est, comme ça on n'aura pas besoin de le redire. L'Union nationale de familles et amis de personnes malades et ou handicapées psychiques. Parmi nous, nous avons Anne-Marie Arat, bénévole, Saint-Pauloise. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour.
Et Philippe Brouin, bénévole aussi, délégué départemental des Landes, délégué adjoint de région Nouvelle-Aquitaine et administrateur de l'UNAFAM nationale. Parce que c'est une association à grande envergure, comme il existe pas mal en fait avec une délégation dans la région. Bonjour tous les deux, on va passer une petite heure ensemble. On va d'abord sauter joyeusement sur le flash info national et international. On essaiera de retrouver le sourire en suivant pour la première partie de cette émission. À tout de suite. Et voilà, nous retrouvons Anne-Marie et Philippe, nos invités. Alors la tradition ici, c'est de demander à chaque invité s'il veut bien nous faire une petite bio, une petite trajectoire personnelle, qu'on ait un petit peu une idée de sa trajectoire avant qu'il arrive à ce micro. On va commencer obligé par Anne-Marie, évidemment, bien sûr, c'est la courtoisie qui le veut.
Non, je vais laisser le chef parler le premier.
Allez, tiens, paf, allez, ben c'est à Philippe alors.
Hein. Eh bien, bon, très bien, mais j'espère que tu parleras quand même un peu.
Oui, ouais, mais je vais y veiller.
Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, voilà, moi je m'appelle Philippe Brouin, donc j'ai 66 ans aujourd'hui, enfin, depuis peu d'ailleurs. Un parcours de vie et professionnel plutôt dense. Il se trouve que j'ai plutôt commencé ma carrière professionnelle en travaillant dans des grandes entreprises, voilà, dans des directions commerciales, techniques. Mmh. Et puis aux environs à partir de 87. On a commencé à avoir la loi sur l'insertion professionnelle, hein, et sur le fait de pouvoir intégrer 6% de personnes handicapées dans les entreprises, mmh. Ce qui était quand même, j'ai trouvé, assez porteur. Et à partir de là, je dirais que j'ai commencé à orienter un petit peu ma vie professionnelle, plus tournée sur le handicap. Voilà, donc à partir de 2000, j'ai changé complètement de métier. Je suis rentré dans le secteur médico-social où j'ai dirigé plusieurs établissements complètement différents, mais plutôt tournés sur le handicap psychique. Mmh. Voilà. Ayant pris la retraite et étant adhérent de l'UNAFAM depuis de longues années, mmh. puisque touché à titre personnel, familial, mmh. Il se trouve que, voilà, bah, assez naturellement, on m'a confié la délégation des Landes, qui, voilà, où il y a un peu de travail à faire, avec le remontage, en fait, d'une structure, d'une délégation, en fait, sur le territoire, de façon à pouvoir apporter un service à tous les Landais et Landaises qui sont concernés.
Oui, bien sûr. Très bien, merci beaucoup. Ce coup-ci, Anne-Marie, hein, on va pas pouvoir se défiler, il va falloir y aller.
Hein. On y va. Donc, je m'appelle Anne-Marie, j'ai 78 ans. Je suis retraitée depuis très longtemps. J'ai réussi à bénéficier de la possibilité de prendre ma retraite. J'étais fonctionnaire en ayant 3 enfants.
Ah oui, oui.
J'ai pu prendre ma retraite à 53 ans. J'en ai profité pour aller faire un tour outre-Atlantique. Je suis partie quelques années au Canada.
Oui.
Voilà. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant de voir la façon dont ces deux pays fonctionnent, avec des choses beaucoup plus intéressantes en France, mais des choses passionnantes aussi au Canada. Mmh. J'en suis revenue avec des tas de petites idées dans la tête. Alors, je suis concernée évidemment par la maladie psychique. Hein, c'est pour ça qu'on est à l'UNAFAM, c'est parce que on a vécu ce type de problématique dans ma famille. Mmh. Donc, voilà, il m'est apparu évident d'en faire partie parce que j'ai eu la chance quand la maladie a débuté pour un de mes enfants. Mmh. D'avoir été très aidée très oui. aidée par mon entourage professionnel, puisque je suis infirmière puéricultrice à la base, et que j'ai toujours travaillé avec des psys en tout genre, des médecins en tout genre, mmh. et que ça m'a bien aidée. Donc, je trouvais normal de rendre l'appareil.
Mmh. Très bien. Et donc maintenant, vous êtes à l'UNAFAM, la section landaise. Donc, alors, cette section oui. landaise est récente, alors, si j'ai bien compris
c'est... Alors, non, c'est-à-dire non. qu'elle existe depuis... Alors, je n'ai pas la date exacte. Mmh. L'UNAFAM nationale, ça date de 1963. Mmh. La section des Landes, elle est là quand même depuis un moment, de toute façon, au moins depuis 2010.
Mmh. Hein, de toute non, façon. Bien avant.
Et peut-être même bien avant. Mmh. Mais par contre, elle a été laissée un petit peu en errance pendant quelques temps, et avec Anne-Marie et puis d'autres bénévoles, on a une dizaine de bénévoles à peu près sur les Landes, on est en train de la remonter.
Oui, surtout que les besoins sont plutôt en augmentation, en fait, hein, parce qu'on va parler un petit peu de ce que vous faites, du coup, en quoi consiste l'UNAFAM. Hein. Bon, c'est l'Union Nationale de Familles et Amis de Personnes Malades ou Handicapées Psychiques. Donc, voilà. Donc, on va parler aussi, bon, un sujet, on a parlé avec d'autres associations, on va parler de père aidance. Voilà, c'est-à-dire les gens qui sont confrontés au problème directement et qui, du coup, sont, comment dire, relativement bien qualifiés pour aider les gens qui traversent un peu la même tempête. Hein. C'est un peu ça, le principe.
C'est ça. L'UNAFAM, en fait, c'est vraiment une association de père aidance famille, en définitive. Donc, le principe, c'est d'aider, d'informer, de soutenir, en fait, des familles. Alors, qui se trouve dans une situation plus ou moins intense liée à la situation de l'un de leurs proches, de leur parler de pair à pair et d'essayer de comprendre en définitive quel est le besoin, parce que les besoins sont tous particuliers, singuliers, il n'y a pas un handicap psychique identique, il n'y a pas des troubles identiques, les symptômes en fait sont tous différents, parce que c'est lié voilà, aussi à des facteurs en fait personnels, sociaux, etc. Donc tout ça joue énormément. Mais par contre, on est là pour soutenir ces familles et leur apporter des services, un certain nombre de services qu'on met en place sur les Landes.
D'accord. Donc alors, de quel type de troubles on parle? Si on peut mettre un nom sur ces troubles, parce que des fois on reste un peu vague, parce qu'on peut mettre des mots dessus, on est là pour parler des choses, hein, de toute façon.
Alors en fait, quand on parle de troubles psychiques aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est au sens large. Moi, je pense qu'il faut mieux aujourd'hui parler de troubles en fait qui affectent la santé mentale, parler de santé mentale. Mm-hmm. D'ailleurs, pour la deuxième année, voilà, pour tous ceux qui n'étaient pas encore au courant, la santé mentale a été portée grande cause nationale.
Oui, c'est vrai.
Donc l'an passé, et ça a été reconduit cette année.
Oui.
Hein, donc ce qui donne davantage de visibilité en définitive à ces maladies. Donc quand on parle en fait de troubles psychiques, d'abord les troubles sont tous différents. Il y a des troubles qui sont de plus ou moins forte intensité en définitive. Mais ce que l'on peut dire en tout cas, c'est que ça touche. C'est souvent des situations, si vous voulez, les conséquences en tout cas des troubles. Alors, si je reviens sur les troubles, on a plutôt des maladies qui sont lourdes, comme des troubles schizophréniques par exemple, comme des troubles bipolaires, comme des maladies liées à l'anxiété, liées à la dépression, notamment quand elle est résistante. Et puis, ben voilà, il y a aussi tout ce qui concerne les mal-êtres, des troubles obsessionnels, compulsifs. Aujourd'hui, chez les jeunes, on voit aussi des troubles qui arrivent d'adaptation, notamment dans l'école. On voit bien des gamins qui sont en difficulté relationnelle, mais aussi scolaire, etc. Donc pour lesquels, bon, tout ça peut être lié à des troubles psychiques. En général, les maladies mentales, quand elles se diagnostiquent, c'est plutôt pour des personnes jeunes avant 25 ans en règle générale.
Oui.
Et en fonction de l'intensité, effectivement, ça requiert des traitements plus ou moins longs, des hospitalisations qui sont plus ou moins répétées, et puis pour certains, un parcours qui est un parcours de vie qui est long et qu'il faut appréhender, à la fois pour le malade, mais surtout aussi pour la famille, qui est, voilà, tout ça est lié. Et la famille, on le dit toujours, pour des familles, c'est aussi un parcours.
Oui, c'est ça, hein, toujours
qui est lié, finalement, au parcours de la maladie de son proche. Et il faut que que les proches apprennent à se préserver. Voilà, oui. L'ENAFAM est là aussi pour ça.
C'est vrai, c'est le credo de pas mal d'associations qui sont dans le médico-social, etc. C'est que, bon, bien entendu, le premier concerné, c'est la personne qui subit le trouble, la maladie. Mais voilà, que ce soit le cancer ou des tas d'autres maladies, les aidants aussi, ben, ils sont aussi dans une souffrance indirecte, mais ils y sont quand même, ça c'est sûr. Et donc ils ont besoin de soutien et d'informations, et vous êtes là pour ça, si j'ai bien compris.
Absolument, on est là vraiment pour au soutien des familles, donc par de l'écoute, de l'accueil en définitive, hein, de l'information, par de la formation et de l'entraide aussi, oui. Si vous voulez en parler, de la formation, de l'entourage, sûr. Des bénévoles, des familles. Et puis on a aussi un rôle qui est important lié à la déstigmatisation et à la défense des intérêts communs.
Oui.
Au fait, ça c'est très important parce que c'est une association qui est nationale, donc avec des délégations dans tous les départements de France et d'outre-mer d'ailleurs, aujourd'hui dans beaucoup de départements. Et donc cette force, en définitive, c'est vraiment la force du bénévolat et des pères aidants. C'est leur nombre, en définitive, qui fait qu'on se retrouve à être en capacité de porter des plaidoyers et surtout d'être représentatif, en fait, des familles qui portent souvent et douloureusement, en définitive, la maladie d'un proche au long cours. Sans forcément toujours trouver les portes ouvertes, notamment en termes d'information, même si les choses bougent beaucoup. Mais peut-être que Marie pourrait vous expliquer qu'il y a encore quelques années, c'était très compliqué pour les familles dont un diagnostic était posé, et souvent d'ailleurs pas très bien posé, ou posé avec des temps d'attente, des errances en définitive, qui étaient très longues.
Oui. Ben c'est déjà le moment de faire notre première pause, hein, une petite pause, on va écouter un petit peu de musique et on va continuer à découvrir votre association et ses actions. On se retrouve tout de suite après ça. Et c'est reparti, alors on va parler un petit peu des actions locales qui se jouent ici un petit peu, Anne-Marie, pour nous raconter un petit peu ce que vous faites, hein. On en a parlé un petit peu hors antenne.
Oui, je peux en parler, effectivement. Je pense qu'il faudrait quand même peut-être revenir sur une chose qui est que il y a quelques années, systématiquement, quand un enfant présentait des troubles psychiques, on accusait la mère d'être la mère maltraitante.
C'est toujours la mère.
C'est toujours la mère. Oui. Le père, il n'existait pas. D'ailleurs, c'est vrai que souvent, il n'existait pas. Mais bon, heureusement, il y a eu une évolution, mais qui a été vraiment tardive. Moi, je pense que les premières fois où les médecins qui suivaient les enfants dont je m'occupais ont accepté que les parents, les mères, puissent rencontrer les équipes. Avant, c'était absolument impossible. C'était chasse gardée, la psychiatrie, les familles, elles étaient exclues. Bref, bon. Donc cette évolution est quand même vraiment intéressante puisque ça permet qu'un dialogue s'installe de façon favorable pour les personnes atteintes de ces maladies. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans les Landes ? Ben, écoutez, ça fait pas très longtemps en fait qu'on a redémarré cette association dans les Landes. Hein. Ça va faire bientôt 2 ans. Ça fait un peu plus d'un an et demi. Hein. Je regarde Philippe. Voilà. Donc, ça a été un démarrage lent. Il a fallu déjà essayer de rencontrer toutes les personnes, tous les acteurs de la maladie, les équipes médicales, les hôpitaux, voire les cliniques.
Il faut refaire un réseau.
Rencontrer évidemment toutes les personnes qui étaient inscrites à l'association, même s'ils ne faisaient pas nécessairement du bénévolat. Voilà. Bon. J'habite à Saint-Paul-et-Dax et à Saint-Paul-et-Dax, il y a eu depuis 2-3 ans, une volonté de la municipalité de s'intéresser à tout ce qui était handicap au sens large. Voilà. Pour l'UNAFAM, ça a été la possibilité de s'introduire dans des discussions, dans des rencontres, dans éventuellement donc avoir la possibilité de bénéficier d'aide municipale comme avoir des salles, pouvoir accueillir des groupes. Voilà, je fais toujours partie du groupe municipale, hein, liée au handicap. Dans le cadre de l'UNAFAM, je m'occupe plus particulièrement souvent de l'accueil, que ce soit en partie téléphonique ou bien en présentiel. Donc ça peut être ici, ça peut être, je peux aussi me déplacer, je fais souvent ça avec Philippe d'ailleurs, on va rencontrer les familles ensemble. On peut essayer de voir quels sont les besoins qu'ils expriment et essayer de voir comment on peut leur apporter des solutions. Enfin, solution est un mot.
De l'aide en tout cas.
Au moins de l'écoute, j'ai envie de dire.
Ah, ça, oui, c'est la première étape.
C'est la première étape.
Oui, alors voilà, justement, alors, ça veut dire que vous avez une permanence téléphonique, une permanence en physique quand vous pouvez, si vous avez un local.
Alors non, en général, bon, téléphonique oui bien sûr, oui. Physique non, on rencontre les gens après rendez-vous, donc soit l'endroit où ils vivent, soit ils viennent, ils se déplacent et ils nous rencontrent ici. Voilà, donc accueil, pas mal de rencontres, nous organisons aussi au moins une fois par an une rencontre entre adhérents. En essayant de parler un petit peu de tout ce qu'on propose et on demande toujours à cor et à cri, on a besoin de davantage de bénévoles.
Ah ben voilà, mais vous êtes là, vous avez le micro, c'est le moment de le chemin de le demander.
Mais vous voyez, je le chante pas, mais pas loin.
Oui, vous auriez pu.
Donc voilà ça. Et ensuite, alors l'UNAFAM propose des formations et ça c'est vraiment intéressant puisque ça nous permet de nous positionner non plus en maman ou papa avec un petit canard boiteux, ça nous permet d'avoir une distance et de devenir non pas des professionnels, mais au moins des, encore une fois, des personnes qui peuvent écouter, qui peuvent aider, ne serait-ce qu'à travers ça. Et depuis le mois de septembre dernier, j'anime un groupe de parole à Dax, une fois par mois.
Alors, ça consiste en quoi ?
Alors, c'est un groupe de 7-8 personnes, des familles qui souhaitent pouvoir s'exprimer et se sentir épaulées, se sentir en famille, j'ai envie de dire.
Moins seules, avec des gens qui sont dans la même difficulté qu'eux, oui.
Voilà, en famille. Pouvoir échanger sans se sentir jugé. Oui. Pouvoir dire tout ce qui est difficile, même si parfois ça peut paraître impossible à dire. Au bout d'un moment, dans le groupe de parole, les gens arrivent à parler et ça leur fait du bien, ils le disent tous.
Oui, bien sûr, c'est bon. Encore une fois, la parole, hein, le fait de dire ce qu'on ressent. Bon, je ne suis pas un spécialiste en psychiatrie ou en psychologie, mais c'est la première étape en général, c'est le vocaliser, hein, dire quelque chose, ça, c'est très important. Et on va déjà faire notre deuxième pause. On va écouter un petit peu de musique, le flash info local, un petit peu moins triste celui-là, j'espère. On se retrouve après, à tout de suite. Parlons un petit peu de, si je prenais un cas type, par exemple, voilà, je suis dans une famille, j'ai quelqu'un, un proche, et voilà, vient d'être diagnostiqué ou en cours de diagnostic, un trouble psychique, mental. Je me tourne vers vous. Parce que vous allez me servir d'interface avec tout ce qui existe, parce que je suis un peu perdu, forcément, j'ai des questions. Vous avez quelques réponses ?
Alors, effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas une situation identique. C'est ça qui est complexe. Je me mets à la place aussi des psychiatres qui, d'abord, sont pas en grand nombre, et ça c'est valable pour les Landes comme c'est valable pour le national. Et qui ont affaire à des diagnostics qui sont complexes et souvent très longs à faire. Nous, en définitive, on vient vraiment en appui, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'opposition, vous en doutez, avec la psychiatrie, et bien au contraire, parce que on estime qu'on vient dans une, on peut venir en tout cas dans une forme de triangulation entre finalement la famille, le patient. L'hôpital, en tout cas le service de soins, pour venir en appui, en fait, avant ou pendant ou après, en définitive, le diagnostic. Avant, parce qu'il y a des personnes qui se posent des questions, parce qu'elles voient le comportement de leurs proches qui change, donc voilà, de manière très inquiétante. Donc c'est là aussi où on peut rentrer dans un système de mise en relation pour leur donner de l'information. On a plusieurs choses possibles pour ça. notamment le site internet de l'UNAFAM, qui est www.unafam.org, sur lequel on trouve beaucoup de renseignements possibles, et notamment quand on adhère à l'UNAFAM, on a la possibilité d'avoir des consultations psychiatres, psychologues, juridiques, notamment gratuites, ce qui est quand même intéressant. Pendant le diagnostic, pendant la phase en fait, ce qui arrive souvent, c'est que des personnes qui se trouvent hospitalisées par exemple, ou suivies en traitement et qui sont majeures, souvent l'information, alors de moins en moins quand même, parce que les médecins aujourd'hui sont essayent de faire effectivement, de donner cette information la plus large possible aux familles, mais c'est pas toujours le cas. C'est-à-dire des remontées d'informations qui nous viennent des familles au national, hein, globalement, nous disent que effectivement il y a une rupture en fait, on nous dit pas, on sait pas. On ne sait pas finalement quels sont les traitements, pourquoi, comment c'est arrivé, qu'est-ce qui va se passer derrière, etc. Et là, c'est vrai que l'UNAFAM peut intervenir pour justement faire ce lien. En définitive, nous, on n'est pas soignants, mais on peut apporter des éclairages. Et puis ensuite, là, quand la maladie est installée, là, il y a plusieurs solutions possibles, c'est-à-dire que soit effectivement c'est quelque chose qui vient d'arriver ou qui est, où le diagnostic a été posé de manière proche. Là, on peut intervenir aussi en appui dans ce qu'on appelle de la psychoéducation. Donc, on a par exemple une femme avec le centre du Vinatier à Lyon est en train de mettre en place dans tous les départements, dans toutes les régions, dans un premier temps, ce qu'on appelle un système bref, un dispositif bref, qui est un dispositif qui se fait en lien avec les soignants. Notamment, il y a un dispositif qui se met en place sur l'hôpital de Dax, avec le prisme, le pôle de rétablissement en définitive, où l'UNAFAM intervient à un moment donné dans cette séquence de psychoéducation sur un troisième entretien avec les familles, ce qui peut permettre en fait de montrer comment de pair à pair la situation a pu être vécue aussi par une autre famille et comment finalement on a pu y remédier, en tout cas se mettre dans une version positive et surtout se protéger soi-même. Voilà.
D'accord. Alors, on parlait tout à l'heure de formation. On a parlé un petit peu hors antenne là, d'une formation qui est importante parce qu'on pense souvent aux les premiers secours physiques. Donc, quand quelqu'un a un problème, massage cardiaque, PLS, enfin, ce genre de choses que tout le monde aurait maîtrisé plus ou moins parce qu'on pourrait sauver des inconnus et des amis aussi. Mais ça existe aussi pour les troubles mentaux. Donc, c'est les premiers secours en santé mentale. Et c'est un peu comme c'est l'équivalent du brevet de secourisme, mais pour les crises psychiques, en fait. Et ça, en fait, ça serait bien aussi qu'il y ait de plus en plus de gens qui aient cette chose, cette compétence.
Tout à fait. Je l'ai suivi il n'y a pas très longtemps avec un groupe de personnes qui ignoraient d'une manière générale comment se comporter face à des personnes présentant des troubles psychiques. Et c'était même assez amusant de voir à quel point, à la fin de cette formation, qui n'est pas très longue, hein, c'est 48 heures, enfin 2 jours, le regard et le comportement avaient totalement changé. Donc c'est vraiment quelque chose que, à mon avis, toutes les personnes qui sont en lien avec du public devraient suivre.
Oui, bien sûr, les enseignants, les médicaux, un animateur de radio, si jamais il y a un invité qui perd les pédales, si je puis me permettre.
Non, mais je pense aussi, je pense aussi bien centre des impôts que la police. Il faudrait que, à mon avis, je pense que ça serait bien si tout le monde pouvait suivre ce type de formation.
Oui, alors ça se dispense maintenant quand même depuis quelques années. Et on la retrouve cette formation quand même auprès. Évidemment, c'est une formation qui est faite en fait pour le grand public, hein, donc à viser en définitive de déstigmatisation et surtout de réduction en définitive un peu des peurs et surtout d'anticipation des risques possibles. Donc effectivement, quand on a une personne de son entourage, ça peut être un voisin, ça peut être une personne que l'on côtoie au travail ou à l'école par exemple, où on s'aperçoit que voilà, il y a un changement de positionnement, un changement d'humeur, quelque chose qui visiblement assombrit en tout cas les relations directes de cette personne avec son entourage, c'est quelque chose qui permet, cette formation permet d'appréhender, de guider, d'alerter. Voilà, donc c'est quand même quelque chose d'important puisque, bon, on sait que souvent, notamment chez les jeunes, le suicide est aussi une cause potentielle, voilà, hein, qui suit une affection de trouble psychique quand même.
Oui, c'est vrai que peut-être que ça pourrait en parler un petit peu à l'éducation nationale. On fait le BSR après tout, on pourrait apprendre aussi à piloter les têtes et les émotions des gens, l'aider. Ça pourrait être une sensibilisation en tout cas, ça pourrait être pas mal peut-être.
Ouais. Alors l'éducation nationale a son modèle de PSSM en fait, et je sais qu'ils sont en train d'en mettre un, enfin qui commence à être dispensé sur un PSSM jeune notamment. Oui. Donc voilà.
Alors il y a aussi un aspect, on n'a pas parlé pour l'instant, un aspect un peu juridique, il y a aussi du conseil juridique. Alors c'est vrai que des personnes qui sont en situation de faiblesse, hein, il faut se méfier aussi, il peut y avoir des abus, hein, le délit d'abus de faiblesse existe, hein, il est puni par le code pénal, hein. Il existe des systèmes de curatelle, de tutelle, etc. pour essayer de protéger les gens d'eux-mêmes, en quelque sorte. Donc vous avez aussi des interlocuteurs dans le domaine juridique pour encadrer ce genre de choses.
Oui, bien sûr. Déjà, on peut se renseigner, encore une fois, à l'UNAFAM, pour tous ceux qui ont quelques doutes. Est-ce qu'on pourrait utiliser tutelle, curatelle, etc. Mais c'est un petit peu diffus, confus. Donc, l'UNAFAM, déjà, peut donner quelques informations. Ensuite, il est évident que c'est quelque chose auquel les parents pensent quand ils vieillissent, tant qu'ils peuvent encore être très proches de leur enfant ou de leur frère ou sœur, voire parents, puisque on a déjà vu ce type de cas, tout va bien. Mais en vieillissant, il faut penser à protéger la personne.
Oui, c'est ça, oui.
Et la protection se fait évidemment... en passant devant un juge des tutelles qui propose une curatelle renforcée voilà. Et je trouve ça très bien.
Il y a aussi encore une fois un autre aspect, on en a parlé pas mal en antenne, c'est le problème quand même qu'on trouve quand même, on parlait tout à l'heure des gens dans la rue qu'on voit, etc. L'addiction, voilà, ça s'interpénètre avec les problèmes psychiques, ça en découle, ça les cause, c'est tellement lié que c'est quand même un problème général, ça, l'addiction.
Oui, d'autant que bon, souvent les personnes qui sont, moi que je vous dis, j'ai pas mal bourlingué dans les dispositifs médico-sociaux. C'est aussi un moyen pour des personnes qui sont sous traitement avec des maladies un peu lourdes. C'est des formes d'automédication en définitive. Et donc, ça fait partie en définitive de leur parcours. Je connais des personnes qui à un moment donné abandonnent des traitements. Notamment des neuroleptiques par exemple, mais qui se soignent uniquement au cannabis, en vivant manière à leur manière, mais ça leur fait du bien et ils arrivent à maîtriser leurs troubles. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, là nous on met toujours l'alerte, mais comme le font les médecins, et sur les risques qui sont liés à des addictions, notamment chez des jeunes, notamment des addictions au cannabis ou à d'autres formes de substances psychoactives qui peuvent, à un moment donné, déclencher une décompensation, une hospitalisation et parfois des maladies derrière qui adviennent. Donc voilà, en tout cas, les comportements, c'est-à-dire qu'on le sait, on parlait tout à l'heure de personnes qui se trouvent désocialisées, très précarisées, des personnes qui sont à la rue, il y a des dispositifs mobiles qui existent sur le département pour leur prise en charge et les aider, les soutenir. Mais effectivement, comme toujours, le handicap est majeur toujours du handicap. C'est-à-dire que le handicap crée du handicap, toujours. Et donc,
cercle vicieux.
C'est un cercle vicieux dans lequel il est toujours un peu plus difficile d'en sortir. La difficulté avec les personnes précaires, c'est souvent qu'elles sont seules. Nous, on a de temps en temps des familles qui viennent vers nous, mais effectivement, c'est souvent des personnes qui sont prises en charge plutôt par le secteur psychiatrique ou par le médico-social sur des dispositifs adaptés.
Très bien, mais on se dirige vers la dernière partie de cette émission, enfin une dernière pause, et on se retrouve pour la conclusion de l'émission. À tout de suite. Nous voilà de retour pour la dernière partie de cette émission. Fais-moi une place, dit Julien Clerc. Ben, tout le monde n'a pas la même facilité à se la faire, cette place. D'ailleurs, je discutais hors antenne avec Anne-Marie. On n'est pas tous égaux, en fait. Il y a un terrain génétique qui peut amplifier les problèmes, et on n'y peut rien, en fait, à ça.
Alors, c'est pas que ça peut amplifier les problèmes, c'est que quand on a un terrain génétique fragile, la moindre contrariété, il ne faut pas exagérer, mais un choc important, une situation catastrophique. Bon, évidemment aussi, on l'a évoqué, la prise de substances illicites ou pas d'ailleurs, puisque l'alcool en fait partie.
Oui, et, pas, et c'est
peut
pas la
provoquer,
plus,
ouais. Voilà. Et puis là, c'est autorisé.
Oui, c'est vrai.
Donc c'est facile, surtout en plus dans le secteur où on en a pas mal. Bref, ça peut faire en sorte qu'il y ait tout d'un coup une crise, quelque chose qui se passe et qui va vite devenir une vraie maladie.
Ouais, ça, on bascule côté obscur,
on si bascule, je peux dire.
Ouais.
C'est ça, oui, tout à fait.
Oui, et donc c'est vrai qu'il y a. Bon, on sait d'ailleurs que notamment pour l'addiction à l'alcool, etc., c'était identifié d'ailleurs certains marqueurs génétiques de la sensibilité à l'addiction. Il y a des gens, et bien, ils naissent avec, ils sont rendus plus facilement alcooliques parce que leur code génétique, il est comme ça. Voilà, donc c'est la vie.
C'est ça.
Voilà. Et donc alors. Qu'est-ce qu'on peut dire encore, alors, l'actualité et les projets?
Alors, juste, peut-être rappeler aussi que ce qui est important aussi pour notre délégation UNAFEM des Landes, c'est qu'on essaye beaucoup d'y pratiquer avec les bénévoles qui nous accompagnent, qui sont quand même à peu près une bonne douzaine aujourd'hui, et ça va venir de plus en plus. C'est qu'on essaye aussi d'y pratiquer l'humour, hein, c'est-à-dire qu'on essaye de se retrouver entre nous. Là on s'est fait une rencontre galette il y a peu de temps. C'est aussi un moment aussi de rigoler un peu des situations qui nous sont opposées, et de se dire justement par la rencontre avec les autres que des situations pires existent, et que surtout, et c'est ça qui est important, c'est qu'il y a des voies de rétablissement pour nos proches. Et ça, c'est vraiment, ça donne de l'espoir. Il y a de belles choses qui se passent. On a des enfants qui sont capables de s'insérer professionnellement dans la vie sociale, etc. Et vraiment, ça fait vraiment plaisir. À ce titre, je voudrais vraiment remercier sur la partie locale, même si j'ai aussi un attachement très particulier aussi pour l'hôpital de Mont-de-Marsan, mais l'hôpital de Dax aussi, sur lequel on essaye de construire pas à pas des relations de travail et de confiance avec eux, la mairie de Dax évidemment, la mairie de Saint-Paul et notamment le comité local handicap qui nous accueille et qui nous aide vraiment beaucoup en nous mettant des salles à disposition, etc. Donc on a des moyens vraiment pour se développer. Et puis sur le Grand Dax, puisqu'on est sur une radio du Grand Dax aussi, on a le comité local de santé en fait, qui fonctionne bien, qui est dans lequel on participe aussi, nous, notamment, on a des projets concernant les semaines d'information sur la santé mentale qui se tiennent en octobre. On fera des ciné-débats, des choses comme ça.
C'est en relation avec le CPTS ?
Oui, absolument.
Ils sont venus ici d'ailleurs.
Très bien, absolument. C'est important. Voilà, c'est des choses qui se mettent en place. C'est, dans les Landes, il y a des coordinations définitives d'acteurs qui sont très importantes parce que, justement, pour nous aider et pour lutter contre les préjugés et surtout venir en appui aux personnes qui souffrent, la coordination des acteurs médicaux, médico-sociaux, c'est très très important, on le voit, et c'est ça qui fonctionne. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en fait des bases de réflexion en commun, et surtout de pouvoir trouver des solutions dans des parcours de vie qui sont parfois un petit peu chaotiques. Je rappelle que on peut nous appeler au 06 80 30 82 41, 06 80 30 82 41, et nous faire un mail au 40@unafam.org, je rappelle, UNAFAM.org. Voilà, et vous aurez une réponse de toute façon, en espérant qu'on ait des personnes aussi qui puissent venir nous rejoindre comme bénévoles. N'hésitez pas, surtout, c'est important qu'on soit nombreux, parce que plus on est nombreux, plus ça se répartit et plus on peut créer des moments de temps conviviaux.
Oui, bien sûr. Alors, bien entendu, comme d'habitude, je mettrai le lien vers votre site internet sur le podcast, et d'ailleurs le site internet lui-même, et je dis aux auditeurs, allez-y, parce qu'il est bien fourni, et on a parlé de certaines choses, vous avez des informations même plus approfondies sur plein d'aspects, donc c'est vraiment très intéressant. Donc j'engage les auditeurs à aller jeter un œil, parce que voilà, il y a une information qui est importante et bien mise en valeur. Voilà, je tenais à le dire. Merci à tous les deux d'être venus nous faire découvrir votre association et vos actions locales. Voilà, et
encore avec plaisir.
Encore
avec plaisir,
des gens dont on a besoin.
Ouais.
Probablement, un jour peut-être. Voilà.
Ouais, peut-être.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.
À bientôt.